Vous écoutez
RMC.
Il est 6h sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et à 6h, c'est l'heure du journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Élise, bonjour à tous.
Match interminable et issue parfaite pour les Bleus.
Les partenaires de Kylian Mbappé se sont qualifiés cette nuit pour les 16e de finale. Victoire 3-0 face à l'Irak dans un match interrompu plus de 2 heures par des orages. Panne, retard, fatigue, la nuit de calvaire pour des passagers d'un TGV qui reliait Bâle à Paris. Plus de 6 heures de retard et pas de climatisation en pleine canicule. Première sanction disciplinaire dans l'affaire Liana après les conclusions d'un rapport sur les dysfonctionnements judiciaires.
Les Bleus, c'est la bonne nouvelle, sont donc qualifiés pour les 16e de finale au bout de la nuit.
Victoire 3-0 face à l'Irak, un doublé de Mbappé, un but d'Ousmane Dembélé. Mais la nuit a été interminable pour les hommes de Didier Deschamps et ses supporters. Le match débuté à 23h, s'est conclu peu avant 3h du matin. Justement, Jean-Louis Tour, vous avez suivi en direct de Philadelphie ce match. Vous êtes toujours en direct avec nous ce matin. C'était une crainte, les violents orages, et ils ont bien éclaté, perturbé cette rencontre.
Oui, les joueurs ont un sens de vie trop tant, une pause.
Ah oui, alors... On vous entend mal, Jean-Louis Tour. On vous reprendra évidemment dans quelques instants. À noter tout de même, Clément, que la Norvège a été qualifiée également grâce à sa victoire 3-2.
Hein. Ouais, un doublé de Haaland et la première place se jouera entre la France et la Norvège ce vendredi à 21h. Et un autre match en ce moment, c'est Jordanie-Algérie. On fait le point tout de suite avec vous, Julian Boubnov.
Et c'est la pause ici à Santa Clara, 1-0, et c'est la surprise totale en Californie, 1-0 pour la Jordanie. Nizar Al-Rajdan, le buteur jordanien, qui pour l'instant met l'Algérie en grande difficulté dans ce groupe J, puisque les Fennec sont provisoirement 4e et dernier de ce groupe J.
Et donc on retourne avec Jean-Louis Tour, hein, vous êtes oui. En direct de Philadelphie, et donc c'était une crainte, les violents orages, et ils ont bien éclaté cette nuit.
Oui, exactement, et donc ça a provoqué cette pause, cette mi-temps de 2h12, c'est unique et ça restera dans les mémoires des joueurs, avec en plus dans le vestiaire cette incertitude d'une reprise repoussée de demi-heure en demi-heure en fonction des moments où la foudre tombait, difficulté dans le vestiaire, expliqué par le capitaine Kylian Mbappé.
C'était une soirée très longue déjà. On a passé beaucoup de temps. Émotionnellement, nerveusement, c'est très difficile. On devait rester concentré, on devait rester concerné dans le vestiaire. Rester 1h30, quasiment 2h dans le vestiaire, ça demande beaucoup. Les joueurs ont fait un grand effort, le staff aussi, pour essayer de laisser concerner tous les joueurs. C'est très compliqué.
Mbappé, qui est devenu l'homme à tout faire de la soirée, quasiment jardinier, a indiqué les endroits où la pelouse était gorgée d'eau et qu'il fallait éponger. Et de nouveau, buteur décisif, deuxième doublé de suite dans cette Coupe du Monde pour lui, dont la deuxième réalisation sur un service d'Ousmane Dembélé. Dembélé, le ballon d'or, a lui trouvé une autre raison de garder Philadelphie en mémoire. C'est là qu'il aura donc marqué son premier but en bleu lors d'une grande compétition avec le but du 3-0. Ça valait le coup d'attendre 2h12.
Jean-Louis Tour en direct de Philadelphie pour RMC. Victoire hier de l'Argentine 2-0 contre l'Autriche. Doublé de Messi, son 5e but de la compétition. 18e but en Coupe du Monde, un record absolu dans cette compétition. 4 matchs au programme aujourd'hui. Portugal-Ouzbékistan à 19h, suivi d'Angleterre-Ghana, Panama-Croatie et Colombie-République démocratique du Congo.
Il est 6h04 sur RMC et c'était la galère hier sur les rails.
Un TGV en provenance de Bâle est resté bloqué en race campagne pendant plus de 6 heures en pleine canicule. Une panne près de Dijon hier en fin d'après-midi. Il est arrivé à Paris vers 2h du matin. Et Lou Garnier, vous avez pu rencontrer les passagers en gare de Lyon, des passagers agacés.
À la sortie de la gare, Lia est épuisée. Son trajet Mulhouse-Paris aura duré plus de 9 heures, c'est 4 fois plus qu'en temps normal. Son train a été arrêté en pleine voie pendant plusieurs heures et dans les wagons, pas de clim.
C'était étouffant, il n'y a pas d'autre mot. Je respirais mais j'avais pas l'impression d'avoir de l'air en fait. Il n'y avait pas de clim. Ils ont fait une distribution de bouteilles mais au bout d'un moment il n'y avait plus d'eau. Avec le chat c'était très compliqué. On a appris après qu'il faisait plus de 50 degrés dans presque tous les wagons. Parce qu'on était en plein cagnard. Là, j'en peux plus, en fait.
Un véritable calvaire, renchérit Jordan.
Il y a eu plusieurs malaises. C'était vraiment
insupportable. On ne pouvait pas respirer, il n'y avait vraiment pas d'air.
Après plusieurs heures d'attente, ils descendent des wagons pour rejoindre un autre train, direction Paris, où ils arrivent à 2h du matin.
Tout est bousculé, c'est-à-dire que j'avais plusieurs choses à faire dans la journée, dans la soirée. Tout a été du coup annulé.
Lui qui devait dormir chez des proches va finalement dormir à l'hôtel. Un peu plus loin, Jacques soupire, la journée va être longue.
J'ai un peu les yeux comme ça, je me dis comment je vais être, dans quel état je vais être au boulot.
Alors tous espèrent obtenir des explications de la part de la SNCF, ainsi qu'une compensation financière.
Galère également en gare de Bordeaux, jusqu'à 4 heures de retard, des trains supprimés, des centaines de voyageurs bloqués en cause de la chaleur écrasante qui a provoqué une panne électrique. Des difficultés également aujourd'hui sur les RER, métro, Transilien en Ile-de-France, vitesse réduite et suppression de certains trains, toujours en raison de la chaleur. Près de 40 millions de Français souffrent de cette chaleur. 473 records de température ont été battus et égalés ces dernières heures. Une centaine de records battus à Rennes, Bordeaux, 43 degrés recensés à Saumur et cet épisode caniculaire va durer. La nuit prochaine s'annonce encore plus difficile à supporter. Nouvelle cellule interministérielle de crise ce matin, place Beauvau.
Ouais, le soleil cogne et le thermomètre s'affole, donc les glaces s'arrachent.
Et les ventes ont bondi de 25% en un mois en grande surface. Chiffre de l'association des entreprises des glaces, un succès porté par la chaleur. Mais aussi une envie simple, se rafraîchir et se faire plaisir. Charlotte Guerre est allée à la rencontre de ceux qui en raffolent à Paris.
À la sortie de cette grande surface, Thibaut, 25 ans, n'a pas les mains vides.
J'ai pris des cornets, sorbet citron et framboise. Avec ces temps très chauds, j'en ai besoin.
Des glaces, il en mange une fois par semaine et ce qui lui plaît, c'est...
découvrir de nouveaux goûts, c'est un peu le plaisir sucré.
Dans les bacs de ce glacier du 7e arrondissement de Paris, des goûts, justement, voilà. Il y en a pour ravir petits et grands.
Mon goût préféré, je pense, c'est la pistache.
Moi, c'est citron.
Mangue et fraise.
Ici, les glaces sont artisanales, préparées dans le laboratoire à l'arrière de la boutique. C'est Julien Yoel qui gère cette entreprise familiale. Lui aussi a constaté une augmentation de ses ventes.
Sur les derniers mois, on a fait plus 30% de chiffre d'affaires. Pour un glacé, ce qui est bon, c'est surtout qu'il fasse beau plutôt qu'il fasse trop chaud. Autour de 20-25 degrés, ça c'est parfait pour un glacé.
Mais cette nouvelle vague de chaleur lui a tout de même réussi. Il reconnaît avoir réalisé samedi dernier le plus important chiffre d'affaires de son histoire.
Il est 6h07 sur RMC et les premières sanctions sont tombées dans l'affaire Liana.
Une magistrate du parquet d'Auch s'est dessaisie des affaires impliquant des mineurs et deux gendarmes du Gers sont mutés et écartés de la police judiciaire. Des mesures annoncées après un rapport interne pointant des défaillances dans le traitement des plaintes. Et Romain Cluzel du service politique d'RMC, Gérald Darmanin persiste et signe. Il s'agit selon lui d'abord de défaillances individuelles.
La publication du rapport conforte Gérald Darmanin dans ses convictions. Pour le garde des Sceaux, les manquements dans l'enquête concernant Jérôme Barella ne sont pas dus à un manque de moyens.
Ils sont dus, me semble-t-il, pour les gendarmes, comme pour la magistrature, ici, à des défaillances personnelles. Évidemment que chacun a une part de responsabilité. La mienne, c'est de mettre une pression saine, en respectant l'état de droit, sur les procureurs généraux. Est-ce que nous avons tous bien fait ? La réponse est non.
Pour autant, le ministre de la Justice exclut toujours de démissionner. Il lance une procédure disciplinaire contre la magistrate pointée du doigt dans le rapport de l'inspection, ce qui est loin de satisfaire l'opposition. Il offre un bouc émissaire à la vindicte populaire, mais ne règle rien sur le fond, s'agace une députée de gauche qui regrette le manque de remise en question de Gérald Darmanin.
Et les magistrats, eux, qu'en pensent-ils ? On posera la question à 6h40 à Justine Probst. Elle est magistrate, mais elle est surtout secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Elle sera notre invitée dans le Morning RMC.
Et le jackpot de 13 millions d'euros au loto du 24 avril dernier n'a toujours pas été réclamé. Malgré les appels de la Française des Jeux, où la gagnante ne s'est toujours pas manifestée. Dernier délai, ce soir, 23h59, et après les millions seront... remise en jeu.
Merci Clément, c'était le journal de 6h et on va tout de suite accueillir Karim au 32-16. Karim qui nous appelle depuis ma ville natale, Rouen. Bonjour Karim.
Salut, bonjour.
Je suis très contente d'avoir un Rouennais au téléphone ce matin.
C'est vrai.
Alors Karim, vous avez regardé le match, tout le match cette nuit ?
Ah bah oui, tout le match. Bah oui, en plus c'est impossible de dormir vu la chaleur de fou ici. Non, j'ai regardé tout le match, mais c'était agréable. Hein. Ça change, c'est original, ça change.
Y compris les 2 heures d'interruption dans ce match.
Ouais, c'était bien obligé.
Vous avez fait quoi alors entre temps, Karim?
Ouais. Ah ben, j'ai continué à regarder un peu la télé.
Ouais.
J'ai joué un peu sur le téléphone et tout en attendant. Et puis de toute façon, j'allais pas dormir la nuit parce que malheureusement, je suis algérien, donc l'Algérie elle joue et on est éclaté au sol. Donc,
ça se passe pas très bien là en ce moment. Toujours 1-0 pour la Jordanie. Hein.
Oui, non, mais c'est comme la Tunisie, on n'a rien à faire en Coupe du Monde, c'est bon, stop, il faut qu'on sorte de là, c'est bon.
Vous êtes sévère.
Heureusement qu'on a l'équipe de France. Non, mais franchement, c'était original, mais ce que j'apprécie beaucoup aux États-Unis, c'est ça. Ils mettent pas la vie des gens en danger. Et ça, je trouve que c'est un exemple à prendre en Europe. Par exemple, quand il y a des intempéries et tout, les matchs, les événements importants, il pourrait faire comme ça, comme aux États-Unis. Je pense que ça, c'est un exemple à suivre, même si c'est pas un pays à suivre en termes d'exemplarité. Mais sur ce coup-là, ils ont bon.
Là-dessus, on peut les suivre. Vous êtes, alors on entendait dans le mondial d'Antoine des supporters qui se demandaient un peu ce qui se passait et qui disaient, bon, en France, il pleut régulièrement, on a des orages, ça interrompt pas les matchs. Vous trouvez que c'est une bonne idée, hein?
Ah oui, mais la différence, c'est qu'aux États-Unis, ils ont quand même beaucoup de stades sans toit. Contrairement en France, on a beaucoup de stades avec des toits. Mais quand même, pour la sécurité, effectivement, je pense que c'est... Oui, ça peut être pas mal, c'est un exemple à suivre pour une fois que les États-Unis ne font pas n'importe quoi. Donc, c'était original. C'est original, donc... c'était quand même une belle soirée. On a fini sur un bon petit 3-0.
Et voilà, la soirée parfaite. Et il est 6h10 sur RMC et on a trouvé le supporter qui était très heureux de cette coupure de 2 heures à la mi-temps. Merci Karim d'avoir composé le 32-16 et d'avoir été avec nous ce matin. Vous continuez et vous envoyez vos réactions aussi sur le WhatsApp. Je lis le message d'Ethan parce qu'il nous fait tout un débrief du match de l'Algérie et il nous dit j'aurais bien aimé vous appeler mais je suis entre ma sœur et ma mère et j'essaye de pas les réveiller.
Ah, bon, c'est prévenant de votre part, Ethan. Vous faites bien. Merci beaucoup. Tiens, peut-être un peu de réconfort pour les supporters algériens qui sont un peu en galère, on peut le dire. C'est la prime de match.
Ah oui, la prime de match. Alors ça, c'est une prime qui ne va pas vous engarrier, je vous l'assure. Elle est actuellement de 35 500 euros et on ajoute 500 euros par but marqué à chaque match de la Coupe du Monde. Vous retenez bien le montant de cette prime parce qu'à tout moment, on peut vous appeler. Et si quand on vous appelle, vous donnez le montant de cette prime, vous la remportez tout simplement. Plus il y a de buts, plus vous écoutez RMC, plus vous avez de chances de gagner beaucoup d'argent.
Et c'est relativement simple. Vous envoyez but au 7-32-16. Vous avez très exactement 10 minutes pour le faire. Il est 6h12. Vous avez donc jusqu'à 6h22. Bonne chance à tous.
Dans 75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Dans un instant, ce sera le choix de la rédaction. On retrouve Martin Bourdin. Bonjour.
Bonjour à tous.
Martin, vous nous expliquez ce matin que le nombre de dossiers d'impayés a explosé l'an dernier. 175 000 d'après les bailleurs sociaux, tout simplement parce que les locataires n'y arrivent plus.
Manger ou payer le loyer, voilà le dilemme auquel sont confrontés de plus en plus de locataires de logements sociaux en France.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Victor Pourchet.
Il est 6h16 sur RMC et RMC Story. Et je vous rappelle très rapidement qu'il vous reste moins de 7 minutes pour vous inscrire et tenter de remporter votre prime de match de 35 500 euros. C'est le montant actuel. Retenez-le bien, il faudra le donner. Vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16. But au 7-32-16.
RMC, le choix de la rédaction.
Et dans le choix de la rédaction, ce matin, on se plonge dans les comptes des locataires de logements sociaux. Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour.
Une grande partie de ceux qui vivent dans ces logements sont dans le rouge. Les bailleurs sociaux ont dénombré 175 000 dossiers d'impayés en 2025.
Et ça ne cesse d'augmenter depuis quelques années, ce nombre de dossiers impayés, Martin. Pourtant, ce n'est pas du tout une question de malhonnêteté des locataires.
Non, exactement. Les mauvais payeurs, ça existe évidemment, mais ils sont très minoritaires. Moins d'un quart d'impayés sur 10, selon une étude publiée au mois de janvier. Le plus souvent, en fait, les locataires ne paient plus, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus, impossible de boucler les fins de mois. C'est ce qui est arrivé il y a quelques mois à Maëlys. Elle est locataire d'un logement social, un T3 à La Seyne-sur-Mer, dans le Var. 670 euros de loyer chaque mois. Mais il y a quelques mois de ça, elle a des soucis de santé. Elle est obligée de diminuer son salaire. Et dans la foulée, son mari cuisinier tombe malade. Lui doit arrêter de travailler. Le début de la galère pour sa famille, raconte-t-elle au micro RMC d'Anna Jojard.
Donc on s'est retrouvé qu'avec un seul salaire pour toutes les factures. J'étais sous l'eau. Le loyer, je ne pouvais plus le payer. Je priorisais mes enfants, ma petite famille par rapport au loyer. Puis voilà, je me suis retrouvée avec presque 6 000 de dettes de loyer. Je passais mes nuits à pleurer.
Vous avez eu peur, Maëlys, d'une expulsion à un moment ?
Alors oui, j'ai paniqué, j'ai stressé.
Et ce que craignent tous ces locataires qui ne peuvent plus payer, Martin, c'est l'expulsion, évidemment. Elles sont, elles aussi, de plus en plus nombreuses.
Un peu plus de 30 000 locataires expulsés de leurs logements sociaux, rien qu'en 2025, plus 27% en un an, parce que demander de l'aide n'est pas simple. C'est d'ailleurs ce que nous a confié Maëlys. Elle a fini par le faire en fin d'année dernière. Et depuis, elle est accompagnée par son bailleur, Erilia, pour trouver des solutions. Nous l'avons accompagnée à l'un de ses rendez-vous.
Madame, mais aujourd'hui, vous avez 4 travailleurs sociaux en fait autour là.
C'est ça. Je suis bien encadrée, il n'y a rien à dire.
On a essayé de vous rattraper, on n'y arrivait pas. Et un jour, vous avez eu le déclic.
Bonjour, Hélène Charnoz, conseillère en économie sociale et familiale chez Erilia. J'ai rencontré Maëlys au mois de décembre-novembre 2025. On a fait un tableau des charges, des dépenses et des ressources pour calculer un reste à vivre. Ce reste à vivre-là, voilà, il était très bas au moment où j'ai rencontré Maëlys. À ce jour, ça va un peu mieux. Mais oui, il y a tout un diagnostic social et financier qui est fait en amont du rendez-vous pour en fait nous permettre de choisir les outils adaptés dans le but d'améliorer les situations de nos locataires.
Et ça fonctionne, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure, Maëlys nous disait qu'elle avait 6000 euros d'impayés il y a quelques mois, elle en a, entre guillemets, plus que 2000 aujourd'hui.
Mais le constat est alarmant, Martin, tous ces locataires, en fait, comme Maëlys, ils doivent choisir entre manger ou se loger.
Et dans ce cas-là, c'est souvent le loyer qu'on sacrifie. Le montant moyen des dossiers d'impayés, c'est autour de 3000 euros d'après la CLCV, mais l'Association de défense des consommateurs constate qu'il y a de plus en plus d'impayés, de plus de 6000 euros désormais, et ça touche tout le monde, analyse Guillaume Eichelmann. Il est chargé de mission logement social à la CLCV.
Là, désormais, tous les ménages sont concernés, de la classe populaire à la classe moyenne, en passant par des employés comme des retraités. Sachant que on va aller vers une aggravation parce que pour l'instant, on avait des dispositifs d'aide jusqu'en 2024. Mais maintenant que le bouclier tarifaire s'est éteint, on se retrouve avec les régularisations de charges des années suivantes. Nous risquons justement à nouveau une bombe sociale et une désagrégation de notre équilibre social au niveau du logement.
Il en appelle donc lui au gouvernement, notamment pour augmenter la partie des APL dédiée au paiement des charges d'énergie. Un forfait charge qui n'a pas été réévalué depuis 18 ans, déplore la CLCV.
Enquête de Martin Bourdin. Merci Martin. Et on lance l'appel aussi au 32-16 ce matin. Vous vous êtes retrouvé dans cette situation d'impayé, dans un logement social. Vous venez nous raconter comment vous en êtes sorti ou si vous y êtes actuellement, quelles difficultés vous rencontrez. On attend aussi vos témoignages sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Il est 6h20 sur RMC.
Mais pas aussi en forme. Harry Styles a surpris beaucoup de monde ce week-end en se rendant à son propre concert en courant. Le chanteur britannique tient une résidence record de 12 shows au stade de Wembley à Londres. Et alors l'ancien membre des One Direction y défend son 4e album. C'est là qu'il a été aperçu et filmé par des fans vendredi en train de faire son petit jogging, petit short comme dans le clip de Dance No More. Je me demande ce qu'il écoute, s'interroge un internaute sur l'une des vidéos postées sur les réseaux. Bah, peut-être ses propres chansons pour réviser, hein, échauffement physique, mental et musical. Alors Harry Styles, c'est un sportif, hein, on le savait. Il fait plusieurs marathons chaque année. Et à Berlin l'an dernier, il l'avait bouclé sous pseudonyme en 2h59 minutes et 13 secondes. Pas mal, non ?
Ah bah, sacré score. Et puis en plus, faut enchaîner les concerts et les courses à pied comme ça. Pas mal, pas mal. On va essayer de s'y mettre, nous, avant les émissions, Elise. Mais d'abord, il est 6h20.
Je te laisse partir devant.
C'est l'heure de nous rappeler les trois grands titres de l'actualité.
Surtout en période de canicule, puisque vous le savez, la France suffoque. 54 départements sont placés en vigilance rouge canicule. Un peu plus de 3 semaines après la découverte du corps de la jeune Liana, les premières sanctions à l'égard d'une magistrate et de 2 gendarmes impliqués dans l'enquête sur Jérôme Barella. Décision prise après la remise du rapport d'inspection qui pointe plusieurs défaillances dans ce dossier. Et puis les Bleus qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe du Monde après leur victoire 3-0 face à l'Irak grâce à un doublé de Mbappé. Et à l'issue d'un match rocambolesque interrompu à la mi-temps pendant 2 heures à cause des orages à Philadelphie. Prochain match des hommes de Didier Deschamps, ce sera vendredi contre la Norvège.
Les Bleus qualifiés et les Algériens en grande difficulté. On suit ce match avec vous, Julian Boubnov en fil rouge. Toujours 1-0 pour la Jordanie.
Toujours 1-0 pour la Jordanie. Les Algériens qui n'y arrivent pas dans cette rencontre et pour l'instant qui sont virtuellement toujours derniers de ce groupe J derrière l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie.
Il est 6h22 sur RMC, RMC Story, et notre docteur du morning est là. Bonjour Aurel Gage.
Bonjour.
La consultation gratuite dans un instant.
En cette période de canicule, serait-il délétère d'utiliser un ventilateur?
Ah bon? Je crois pas. Réponse dans un instant sur RMC, RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Victor Pourchet.
Il est 6h26 sur RMC et RMC Story. J'ai récupéré mon micro et on va voir le docteur.
RMC, consultation gratuite.
Eh oui, la canicule est là et on essaie tous de tenir en se rafraîchissant autant que possible. Environ un quart des Français, Aurel Gage, possède une climatisation, mais pour les autres, on se rabat souvent sur le ventilateur. Alors docteur, grande question, le ventilateur est-il vraiment efficace lorsqu'il fait chaud?
Eh ben non, ça va dépendre de la température. Et là, particulièrement, on est dans des gammes de température où il n'y a pas trop de doute. Il peut être potentiellement même délétère. Alors théoriquement, vous aviez une recommandation des institutions publiques, c'était de dire bah au-dessus de 35 degrés, on n'utilise pas le ventilateur. Et c'est pas pour vous ennuyer, vraiment, puisqu'on a eu des modèles qui ont été faits. On a un magazine scientifique très connu, le Lancet. Le Lancet, qui en 2024 a fait une étude et s'est intéressé aux conséquences de l'utilisation du ventilateur en fonction de la température, mais aussi en fonction des personnes qui l'utilisent. Et qu'est-ce qu'on a observé? Ben, on a observé que en dessous de 35 degrés, vous pouvez y aller, il est utile. Bon, évidemment, ça va vous assécher un petit peu les muqueuses, etc. Mais globalement, il est utile. Au-dessus de 45 degrés, qui que ce soit, il est délétère. Donc entre 35 et 45 degrés, c'est la petite zone un petit peu compliquée où en fait, ça va dépendre de comment vous l'utilisez et surtout de votre âge. Si vous êtes jeune, c'est plutôt utile. Si vous êtes plutôt âgé, ça peut être vraiment délétère.
Et alors comment on explique cette perte d'efficacité entre 35 et 45 degrés?
Et ben pour ça, il faut comprendre comment fonctionne un ventilateur. Le ventilateur, il va vous faire perdre de la chaleur par deux façons. La première, ça va être tout simplement en vous envoyant de l'air frais sur la peau, ce qui va faciliter justement le phénomène de conduction, convection, qui vont justement eh bien, permettre de refroidir la peau. Et la seconde chose, c'est lié à l'évaporation de la sueur. Parce que quand vous envoyez de l'air sur la peau, ça va faciliter l'évaporation de la sueur et donc, eh bien, ce transfert d'énergie va faire que vous allez vous refroidir. Bon, le problème, c'est que si vous envoyez de l'air chaud, le premier phénomène, bah, il n'est plus là, même il est délétère. C'est-à-dire que vous envoyez de l'air encore plus chaud sur la personne et donc en fait, vous allez la réchauffer. Oui, mais vous allez faciliter l'évaporation. Et donc la question, c'est à quel moment, quel phénomène est au-dessus de l'eau? Donc en dessous de 35 degrés, c'est bon puisque les deux phénomènes vont vous faire diminuer la température corporelle. Alors que entre 35 et 45 degrés, eh bien, ça va dépendre des gens. Si vous avez une transpiration efficace, donc si vous êtes jeune, c'est bon. Si vous êtes plutôt âgé, c'est plus compliqué. Et si vous voulez vraiment rentabiliser votre ventilateur, il faut que vous ayez la peau mouillée. Et là, pour le coup, vous augmentez énormément les gammes de température. Donc le brumisateur, ventilateur, là par contre, vous pouvez y aller dans ces périodes avec ces températures de canicule, mais ventilateur seul, très franchement, quand vous êtes à 40 degrés, je vous le déconseille.
Merci docteur, on a bien tout noté, vous n'hésitez pas à envoyer vos questions au docteur sur le WhatsApp RMC 0612 424 424.
Et c'est l'heure de jouer avec Carole au 3216. Bonjour Carole.
Bonjour.
Est-ce que vous avez identifié le mot caché, Carole?
En guerrier.
Et bravo.
Félicitations.
Félicitations, vous repartez avec la lampe design Minaem de Lexone.
Eh ben merci beaucoup.
Avec grand plaisir, merci. Carole, on vous gâte sur RMC. Merci. Et on vous souhaite bon courage. Vous êtes chauffeur livreuse, ça se dit
oui.
Comme ça? Bon.
C'est alors, ça.
Bon courage pour la tournée du jour avec cette chaleur.
Il est 6h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
L'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Et à la une, cette question, nos infrastructures vont-elles tenir?
Énormément de soucis en ce moment dans les transports, de gros retards pour des TGV jusqu'à cette nuit à cause de soucis sur le réseau, des suppressions encore en région parisienne ce matin. Quatre lignes de métro, c'est la nouveauté ce matin, qui sont touchées. Jusqu'où les températures vont-elles grimper? Vous allez voir que plus de 90% des Français sont exposés à ces températures exceptionnelles. Et aux États-Unis, ce sont les orages qui ont perturbé le match des Bleus cette nuit, qui ont battu l'Irak 3-0, qui se sont qualifiés pour les 16e de finale.
Et donc ça craque dans les transports à cause de la chaleur.
Avec des perturbations, oui, jusque dans la nuit, dans les trains, donc 6h30 de retard pour un TGV parti de Bâle et qui est arrivé à 2h du matin à Paris cette nuit. La faute à une avarie. Des heures de retard aussi pour des milliers de voyageurs qui ont subi une panne d'alimentation électrique en gare de Bordeaux. Retard qui perdure d'ailleurs pour le premier TGV du matin sur l'axe Paris-Bordeaux. Et encore des suppressions aujourd'hui donc dans les transports en région parisienne, en banlieue, donc sur le RER, dans les Transiliens, mais aussi sur quatre lignes de métro. C'est la nouveauté santé, hein, Caroline Renaud. Vous êtes en direct de la Gare du Nord à Paris, où passent tous ces transports et où les Franciliens donc sont contraints de s'accommoder.
Oui, c'est là que passent plusieurs lignes concernées par les perturbations. Un métro, deux RER et deux Transiliens. Multiples ralentissements, trafic perturbé, peut-on lire sur les panneaux d'information. De quoi inquiéter certains voyageurs, comme Freddy, qui scrute les écrans avant de partir.
Un décalage, nombre de personnes en plus, et galère, quoi. Un train sur deux, un train sur trois, et c'est dur, quoi. J'essaie de modifier mon trajet pour aller au travail au plus vite, quoi. On s'adapte, hein, on n'a pas le choix, quoi.
L'objectif derrière ces suppressions de trains, protéger les installations, car les rails se dilatent avec la chaleur, les câbles électriques, eux, se détendent. Ça, Abdel l'a bien compris. Mini ventilateur à la main, il a préféré prendre le RERD plus tôt ce matin pour éviter le pire.
Ce n'est pas évident de se retrouver coincé sous 35 degrés, quoi, dans un train qui ne peut plus rouler. Donc oui, il vaut mieux éviter tout ça. Horrible. Déjà en temps normal, c'est horrible, donc doublement horrible, je dirais.
Et il faudra encore s'armer d'un peu de patience. Ces perturbations devraient durer au moins jusqu'à jeudi. La présidente de région Valérie Pécresse conseille aux Franciliens d'éviter de se déplacer et de télétravailler autant que possible.
Le ministre des Transports a rappelé durant le week-end à investir massivement dans le ferroviaire pour faire face aux chaleurs extrêmes auxquelles nous sommes confrontés. On a vécu hier la troisième journée la plus chaude jamais mesurée. 54 départements, vient de dire Géraldine, en alerte rouge, 35 en orange, 472 records de chaleur battus ou égalés, dont une centaine de records absolus. Hier, des endroits où il n'avait jamais fait aussi chaud, en fait, comme à Bordeaux, Rennes, Saintes, Angers, ici à Saumur, nous dit le maire Jacques Goulet.
On a mis en place un certain nombre de brumisateurs. On ouvre une salle réfrigérée pour tous les habitants. J'ai 64 ans aujourd'hui. Quand j'avais 30 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais pas cru. Et quelque chose qui est exceptionnel sera plus régulier. Il va falloir qu'on réfléchisse passablement. Faut qu'on ait plus de points d'eau en fixe dans la ville. Faut travailler la végétation. Un travail important pour les centres-villes. C'est une obligation. J'ai bien évidemment beaucoup discuté avec les habitants. Il y a beaucoup de fatalisme en disant il fait chaud, mais c'est comme ça, quoi.
43, donc hier à Saumur, et déjà 27 degrés ce matin à Biscarrosse. Alors encore plus d'écoles que prévu étaient fermées hier, 1 000 totalement, 4 000 avec des aménagements. Encore un drame terrible à Carpentras dans le Vaucluse, où deux enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts dans une voiture, sans doute après avoir échappé à la vigilance de leur maman qui est rentrée et des courses. Et encore une noyade mortelle hier, c'était à Chatou dans les Yvelines, un jeune de 25 ans qui se baignait dans la Seine.
Et face à ces dangers de la canicule, comment vous tentez de vous rafraîchir? À quels endroits? Il y a les classiques, il y a le cinéma, il y a les centres commerciaux, évidemment. Et il y a aussi des îlots de fraîcheur qui sont installés dans les villes et à l'ombre des arbres. On attend vos témoignages au 3216 et sur le WhatsApp au 0612 424 424.
Les premières sanctions tombent contre une magistrate et deux gendarmes après la remise du rapport sur le meurtre de l'affaire Liana. Il y a 3 semaines, un rapport pointant du doigt les défaillances individuelles, mais aussi structurelles, contrairement à ce que répété hein, le gouvernement depuis 3 semaines. Et dans la foulée de cette affaire, d'ailleurs, les magistrats avaient reçu, vous savez, la consigne de réexaminer immédiatement 70 000 dossiers de plaintes touchant des mineurs. Eh bien, 134 personnes ont été placées en détention provisoire dans le cadre de ces réexamens. La justice qui enquête désormais sur le groupe Altrad, spécialisé dans les matériels de chantier. Une enquête préliminaire est ouverte pour fraude fiscale, des perquisitions menées la semaine dernière, notamment au siège à Montpellier, ce que fait savoir le parquet national financier après une plainte en avril de la administration fiscale visant le groupe de l'homme d'affaires Moued Altrad, par ailleurs président du club de rugby de Montpellier qui jouera samedi la finale de Top 14 contre Toulouse.
Il est 6h35 sur RMC et on retourne à Philadelphie ce matin.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Où le match des Bleus s'est terminé, mais alors bien plus tard que prévu, car perturbé par les orages. Hein, les Américains rigolent pas avec ça. La mi-temps a duré 2 heures quand même, c'est du jamais vu, avant que le match ne reprenne et que les Bleus l'emportent 3-0, donc contre l'Irak, avec encore un doublé de Kylian Mbappé et le premier but en mondial d'Ousmane Dembélé. Il y avait débat sur lui après le premier match, hein, Florent Germain, il était temps qu'il marque.
Oui, Ousmane Dembélé a lancé sa Coupe du Monde. Le Ballon d'Or a d'abord montré son sens du collectif en offrant un but à son ami Kylian Mbappé et il a surtout débloqué son compteur dans une grande compétition avec les Bleus, le sélectionneur Didier Deschamps content pour son attaquant.
Vous allez lui lâcher les baskets peut-être, vous allez trouver une autre cible. Il n'y a pas de souci avec Ousmane. Il doit lui aussi se réadapter à un système dans lequel il ne joue pas toute l'année.
Les Bleus le savent, la France aura sûrement besoin d'un grand Dembélé pour réussir sa Coupe du Monde. Le capitaine Kylian Mbappé n'a jamais douté de son coéquipier.
Toute l'équipe voulait qu'il marque. Pour nous, c'est un joueur qui est essentiel. Pour nous, c'est clair que Ousmane se sente bien, se sente à l'aise, peu importe où il joue, mais qu'il puisse jouer son football. Parce que quand il joue son football, c'est un joueur unique et spécial.
D'autant qu'Ousmane Dembélé, qui a connu une saison tronquée par les blessures au PSG, se sent bien physiquement, promet le staff des Bleus.
Alors les Bleus sont qualifiés pour les 16e de finale, ils joueront là. Voilà pour la première place du groupe vendredi à Boston contre la Norvège qui, elle, a battu dans la nuit le Sénégal 3-2. Et alors, plutôt dans la soirée, l'Argentine, elle a battu l'Autriche 2-0, doublé de Messi, désormais seul meilleur buteur en Coupe du Monde. Dans ce groupe, d'ailleurs, il y a l'Algérie et la Jordanie qui jouent en ce moment. Ça se passe à San Francisco, deuxième mi-temps. Vous suivez ça pour RMC, Julien Boubneuf. L'Algérie a égalisé, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Égalisation de l'Algérie de la part de Nadir Ben Bouali. Donc, un but partout à la 75e minute entre la Jordanie et l'Algérie. Pour l'instant, au classement, ça ne change rien. L'Algérie est toujours dernière du groupe J, mais reprend espoir dans cette rencontre à un quart d'heure de la fin.
Et on reverra le Portugal à 19h, en fin de journée. Je vous donne tout le programme. Portugal, le Cristiano Ronaldo qui jouera à 19h contre l'Ouzbékistan. Enfin, je vous donne le quintet.
Dieppe.
Quintet à Dieppe, oui, c'est ça, aujourd'hui, 18h30. Les pronostics de la Dream Team des courses RMC, le 5 et le 7. Le 5 en favori, Mr. Chang. Et le 7 en outsider, Bailey's Bachelor.
Toujours alors, je crois que c'est Bailey's, non? Comme oui, la boisson. Enfin, j'en
si
sais rien.
Oui, bon, j'ai un mauvais accent anglais.
Je sais pas du tout ce que j'ai dit.
Il y a une ambiance délétère sur ce plateau à 6h37.
Délétère, c'est vraiment le mot préféré.
Ce n'est pas le mot caché. Il a déjà été remporté. Ouais. Sachez-le. Merci.
Mais définitivement, on n'a pas le droit de pas savoir parler anglais ici. Hein.
Oui, il faut être bilan, Quentin, quand même. Bon, allez, il est 6h38. On va tout de suite accueillir Thierry au 32-16. Thierry qui nous appelle depuis la Charente. Bonjour Thierry.
Bonjour Élise, bonjour Victor.
Comment ça va? Comment s'est passée la nuit pour vous, Thierry?
Eh ben, on n'a pas pu se reposer, il fait trop chaud. Il a fait 30 cette nuit. On a mis la toile de tente dans le terrain, mais la terre est chaude, donc.
Vous êtes en Charente, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. Hier, on avait, j'ai relevé sous abri et j'étais à 44 hier.
44. De quel côté de la Charente?
La Rochefoucauld. Près d'Angoulême, quoi. À une demi-heure d'Angoulême.
Et puis, nuit difficile, Thierry, et nuit difficile qui se succède, surtout. Ouais, c'est ça, elle s'accumule.
Exactement. Et encore, moi, j'ai pas trop à me plaindre. Je suis à la campagne, donc j'ai un peu de verdure et tout ça. Mais en ville, ça doit être l'horreur. Moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'on parle toujours de 2003. Et nos politiques, ils disent toujours, on va en tirer les conséquences et prendre des mesures. Et 23 ans après, il n'y a rien fait, quoi. Il y a toujours autant de béton dans les villes. Il n'y a pas de mesures concrètes qui ont été prises, quoi. Et là, on va nous faire encore des beaux discours et l'année prochaine, il y aura des canicules et on refera les mêmes discours, on fera les mêmes conclusions. Enfin,
quand même, Thierry, les vigilances rouges, oranges, ça, c'est un héritage de la crise de 2003.
Ça m'a vachement aidé à dormir, ça.
Oui, c'est sûr.
J'entends. C'est comme en hiver quand on dit qu'il va tomber 50 cm de neige. Oui, tombe la neige, oui. Et donc?
Oui, puis j'imagine que vous avez bien écouté le journal de Quentin Vinet avec toutes les conséquences en pagaille, notamment dans les trains. C'est...
Alors après, on peut pas lutter contre la nature ni contre la météo, et tant mieux. Il va falloir vivre avec, c'est clair. Après, c'est dur, mais comme je vous dis, c'est dur, mais je vais pas me plaindre non plus. Je pense à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les EHPAD, ceux qui travaillent sur les forces de l'ordre, les services de secours. C'est pire que nous, quoi. Vous rendez compte, quand ils ont leur veste en cuir et tout, qui vont lutter contre les incendies.
Et on entend, donc, en tout cas, votre colère.
Ça relativise nos situations personnelles.
Voilà, on entend votre colère et aussi quelque part votre résignation ce matin, Thierry, face à cette chaleur et à notre manque d'adaptation. Merci d'avoir composé le 32-16. Vous faites comme Thierry. On attend aussi vos messages sur le WhatsApp RMC 0612 424 424.
Il est 6h40 et dans un instant, on va reparler de l'affaire Liana, de lourdes défaillances individuelles pointées dans ce dossier. C'est ce que dénonce le gouvernement après la publication d'un premier rapport de la mission d'inspection. Une magistrate et deux gendarmes ont d'ores et déjà été sanctionnés. Bonjour Justine Probst.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire national du syndicat de la magistrature. Dans un instant, vous nous direz ce que l'on pointe avant tout. C'est un cruel manque de moyens pour la justice.
Et puis, elle est là, la bande du Morning, en partie délocalisée. La causerie, c'est ce matin avec Fabrice Hawkins en direct de Philadelphie. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Et on aura aussi Anthony Morel pour C'est déjà demain.
Non seulement il fait chaud, mais en plus il y a des moustiques. Mais j'ai des solutions pour vous.
Ah, la totale. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Victor Pourchet.
Il est 6h44 sur RMC, sur RMC Story. C'est un premier constat que le gouvernement juge accablant. Dans son rapport rendu hier, la mission d'inspection sur l'affaire Liana a mis en évidence une série de dysfonctionnements dans le traitement des plaintes contre le principal suspect, Jérôme Barella. L'enquête administrative se poursuit, mais déjà, les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont annoncé des sanctions. Une substitut de la procureure d'Auch ne peut plus traiter de dossiers liés aux mineurs et deux gendarmes sont mutés.
Bonjour Justine Probst.
Bonjour.
Vous êtes magistrate, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Le ministre de la Justice vient-il de faire un exemple avec ces sanctions ? Est-ce que ça vous choque ?
Oui, on est vraiment dans une opération de communication du ministre de la Justice, en fait, qui avait annoncé les sanctions avant même, en fait, de lancer l'inspection, hein, début juin. Donc, il est dans une continuité. Il avait annoncé qu'il y avait des fautes avant même d'avoir accès à la procédure. Là, il annonce des sanctions avant même d'avoir accès à un rapport définitif de l'inspection, et alors même que l'inspection, hier, nous annonce qu'elle n'était pas en capacité de respecter les 2 semaines pour rendre son rapport et avoir besoin de 2 délais supplémentaires.
Justement, Justine Probst, ces sanctions, vous le disiez, elles arrivent avant même la fin de l'enquête administrative. Pourquoi si tôt ? Et est-ce que, selon vous, ça crée un précédent assez dangereux, ces sanctions, avant la fin de l'enquête ?
Bah, pour nous, c'est un dévoiement vraiment de la procédure disciplinaire qui existe, hein, dans la magistrature. Mais en fait, pour sanctionner un magistrat, on a besoin, mais en fait, de travailler comme un magistrat, c'est-à-dire d'aller chercher tous les éléments qui permettent de comprendre les décisions qui ont été prises tant par l'équipe administrative du tribunal de Auch que par le parquet, que par le gendarme. Et à notre sens, en fait, quand on lit réellement le rapport, on voit un manque de moyens, on voit des dysfonctionnements, mais qui ne sont pas imputables aux personnes, aux agents, aux agentes, mais en fait aux moyens qu'on donne à ces personnes pour exercer leur mission.
Pour vous, il n'y a aucune erreur humaine, individuelle ?
Bah, pour nous, à ce stade, ce que l'on voit dans le dossier, c'est que la magistrate qui a traité la procédure, elle la traite dans des conditions extrêmement dégradées. L'inspection, qui n'a pas eu le temps de tout envisager, hein, nous parle seulement de 5 semaines dans la vie de cette magistrate. Et on voit bien que sur ces 5 semaines, elle n'avait aucune journée de libre pour traiter la procédure et elle l'a fait malgré tout. Donc nous, ce que l'on voit dans ce rapport, parce qu'on connaît la réalité du métier, c'est que c'est une personne qui était très engagée dans ce qu'elle faisait et qui a traiter comme elle a pu la procédure qui lui a été confiée.
Et une personne qui a dit aussi dans ce rapport ne pas avoir reçu de formation spécifique pour ce genre d'affaires. Je voudrais vous noter aussi ces mots. On parlait de Gérald Darmanin, il y a aussi eu des mots de Sébastien Lecornu. Je vous les cite. Négligence, inaction et mauvaise décision. Est-ce que vous reconnaissez les magistrats français dans ces mots ?
Non, ce que je reconnais, c'est qu'effectivement, on a des problèmes dans ce dossier de délai, de prise en compte, de priorisation, de possibilité de prioriser, et on a une impossibilité de faire du suivi de procédure comme ça devrait être possible. Donc oui, on reconnaît, on le voit dans le rapport, il y a des délais de prise en charge qui sont importants, mais qui s'appliquent à tous les magistrats aujourd'hui en France et à tous les parquetiers et parquetières. C'est pas un problème. Le garde des Sceaux, il parle d'un cas exceptionnel qui, du coup, ne reposerait que sur des fautes individuelles. Nous, ce que l'on voit dans le dossier, c'est un mode de fonctionnement malheureusement classique dans des parquets qui sont en sous-effectif et pareil du côté de la gendarmerie. Alors je suis pas syndicaliste pour les gendarmes, mais quand je lis le rapport, je vois que c'est un gendarme qui a une très bonne réputation, qui a la réputation de bien gérer ses dossiers et qui indique dans le rapport qu'il n'a pas eu le temps, au vu de toutes ses autres contraintes, parce qu'il a aussi les violences conjugales par exemple, de pouvoir traiter dans un temps raisonnable la procédure qui lui a été confiée.
Alors c'est pas tout à fait ce que dit le rapport sur le cas de ce gendarme-là. Le rapport qui rappelle les 8 appels de la mère de la petite Rosa, hein, c'est la plainte déposée en août 2025 contre Jérôme Barella, c'est pas tout à fait ce qui ressort de ce rapport. Mais encore une fois,
c'est pas le même gendarme. Enfin, on le lit. Non, mais écoutez, j'entends ce que vous dites, mais ce qui ressort du rapport, c'est que effectivement la mère a appelé à de multiples reprises, mais c'est pas la même gendarmerie. Donc, effectivement, quand on va dans les détails, ce gendarme-là, il n'apparaît pas qu'il a eu la mère au téléphone. On voit juste qu'il a lancé des actes d'investigation qui sont fondamentaux pour pouvoir permettre à une enquête de prospérer et de pouvoir espérer la mise en accusation d'une personne qui est mise en cause pour des faits de viol.
Mais est-ce que je comprends, Justine Probst, c'est que vous nous dites le garde des Sceaux ne veut absolument pas voir le manque de moyens et l'aspect structurel de cette affaire. Est-ce que ça veut dire que ce matin, vous nous dites si on ne fait pas, si on ne traite pas ces dossiers-là, des affaires Liana, on va en avoir d'autres ?
Bah évidemment, moi c'est le retour de tous les collègues qui sont dans des parquets des mineurs de dire mais c'est sûr que j'en ai moi dans mon cabinet des affaires Liana, mais sauf que j'ai pas d'enquêteurs en nombre suffisant, donc en fait oui effectivement on a énormément de procédures et là le coup de communication de dire on va revoir les 70 000 plaintes c'est aussi une opération de communication parce que le parquet peut redonner des consignes et en vrai ouvrir le parapluie et dire j'avais redonné des ordres et j'ai dit que tout était urgent. Derrière les gendarmes et les policiers, ils seront pas plus nombreux pour traiter les procédures.
Et on entend ce matin vos mots, Justine Probst, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, de vos collègues qui vous disent qu'il y a d'autres affaires Liana dans les tiroirs. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RMC. Il est 6h50, c'est l'heure de rappeler les trois grands titres de l'actualité, Élise.
Et on vient d'en parler après la série de dysfonctionnements individuels et un manque de moyens accordés à la justice relevé dans un rapport. Le gouvernement a sanctionné deux gendarmes et une magistrate dans le sillage de l'affaire Liana. 90% de la population française, désormais affectée par la canicule, la majeure partie du pays, est en vigilance rouge ou orange. Et puis c'est au cœur de la nuit que les Bleus se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Vainqueur de l'Irak 3-0 après une longue interruption de 2 heures, conséquence des orages.
Et la Coupe du Monde, on y retourne, un point toutes les 10 minutes, c'est la promesse. Jordanie-Algérie, Yulian Boubnov, vous y êtes. On en est où ?
Et ça va beaucoup mieux pour les Algériens qui ont tout renversé dans cette partie en moins d'un quart d'heure après l'égalisation de Ben Bouali. C'est Amine Gouiri, le Marseillais, qui a inscrit le deuxième but pour l'Algérie alors qu'on joue la 89e minute de cette partie. Pour l'instant, l'Algérie revient donc en course à la qualification dans ce groupe J.
Merci Yulian Boubnov. Il est 6h51 sur RMC.
Et on va tout de suite retrouver Fabrice Hawkins en direct depuis Philadelphie aux États-Unis pour la causerie. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Alors comment s'est passée cette soirée avec nos Bleus ?
Eh bien, une soirée très particulière ici à Philadelphie puisque le match a été interrompu à la pause. Les joueurs des deux équipes, les Français et les Irakiens, sont allés au vestiaire sous la pluie donc et sont revenus sur la pelouse 2 heures après seulement. La faute à un épisode orageux, des trombes d'eau sont tombées sur la pelouse du Lincoln Financial Field, un stade ouvert où les spectateurs ont pris l'eau dans les gradins, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Ils ont été invités à aller se mettre à l'abri dans les coursives de l'enceinte sportive. Dans le même temps, eux, les joueurs essayaient de tuer le temps comme ils pouvaient dans le vestiaire en écoutant les consignes de l'entraîneur, en restant actif aussi. Certains ont fait du vélo par exemple. Au bout de 2 heures, ils ne savaient plus trop quoi faire, mais heureusement ça ne les a pas perturbés outre mesure puisqu'en revenant sur le terrain ils ont marqué 2 buts. Une soirée vraiment qu'ils ne sont pas prêts à oublier.
Et qui n'est pas prêt d'oublier Ousmane Dembélé qui a enfin marqué en Coupe du Monde, ça y est.
Oui, il lui aura fallu 13 matchs de Coupe du Monde. Le Ballon d'Or était particulièrement attendu après une rencontre terne contre le Sénégal il y a une semaine. Le buteur du Paris Saint-Germain, repositionné à droite, a fait un très bon match. Un but mais aussi une passe décisive pour Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France l'avait défendu en fin de semaine dernière en expliquant que Dembélé avait la confiance du groupe. Sur le terrain, les deux amis et Michael Olise ont démontré une complicité qui reste à parfaire. Mais maintenant que Dembélé a débloqué son compteur, il va pouvoir jouer complètement libéré.
Alors où s'arrêtera Kylian Mbappé, c'est la question. Il a encore inscrit un doublé hier soir.
Eh oui, ces statistiques sont affolantes. Hier, Kylian Mbappé a marqué ses 15e et 16e buts en 16 matchs de Coupe du Monde. Pour sa 100e rencontre en bleu, il a atteint les 60 réalisations. C'est le recordman. Aucun Français ne fait mieux. Lui qui a toujours la tête levée vers les étoiles à la recherche de nouveaux défis va faire la course avec Lionel Messi. L'Argentin a marqué, lui, 18 buts en Coupe du Monde, donc 2 de plus que Mbappé. Le numéro 10 des Bleus a expliqué qu'il ne pensait pas au titre de meilleur buteur pour le moment. On n'est pas obligé de le croire. En tout cas, l'attaquant français rayonne et pourvu que ça dure pour les Bleus.
Merci Fabrice Hawkins en direct de Philadelphie où nos Bleus ont joué jusqu'au bout de la nuit. Anthony Morel pour la tech. L'un des effets collatéraux de la chaleur, c'est de ça dont on va parler, ce sont les moustiques qui reviennent en forme avec ce bruit insupportable et des solutions qui existent. Tu nous as apporté une grosse boîte noire, qu'est-ce que c'est ? C'est un aspirateur anti-moustiques ?
Oui, c'est ça, exact. C'est pas une machine à café parce qu'on pourrait croire.
Oui, c'est vrai, ça
ressemble beaucoup, une grosse machine à café et effectivement c'est un aspirateur anti-moustiques. C'est une borne donc qu'on va installer soit dans son jardin, soit sur son balcon, donc une grosse boîte noire, 50 cm de haut, et qui va attirer de manière irrésistible tous les moustiques dans un rayon de 60 mètres. La promesse est quand même belle, c'est une start-up française qui a mis ça au point, Kista, ils sont basés du côté d'Aix-en-Provence. Le principe de cette borne, c'est qu'à l'intérieur, eh bien en fait, vous avez des éléments qui vont imiter le comportement humain. Et donc, le moustique, plutôt que d'aller sur vous, il va aller vers la borne. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il y a une bonbonne de CO2 qui simule la respiration de l'être humain. Et puis, il y a un leurre olfactif qui simule notre odeur. Puissance 10, si tu veux, pour que, en fait, ce soit...
C'est pareil, pour faire pot de miel, en fait.
C'est exactement ça. C'est le pot de miel, l'équivalent du pot de miel, mais pour les moustiques. Et donc, ils vont être attirés. Une fois qu'ils entrent, il y a un filet, ils sont piégés, ils ne peuvent pas ressortir. Et donc, vous allez avoir moins de piqûres, tout simplement. Alors, la question, c'est est-ce que ça fonctionne? On a déjà des preuves que oui, parce que là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la version grand public qui vient juste de sortir. Ça coûte autour de 650 €. Mais ça fait plusieurs années. Ah, bah oui, c'est un budget quand même. Mais si ça permet de se débarrasser des moustiques, il y a des régions, vous allez en Camargue, c'est quand même une énorme galère. Mais vous avez en fait une version professionnelle qui existe depuis des années, qui est beaucoup plus grosse, qui est destinée aux municipalités, qu'on installe dans des crèches, dans des jardins publics, et qui fonctionne très très bien. C'est installé dans le sud de la France notamment. Il y a 16 000 bornes qui ont déjà été installées. Et dans les zones où c'est installé, eh bien, les piqûres de moustiques ont été divisées par 10. Donc ça fonctionne vraiment pas mal. Ouais, non, c'est bien. Et innovation française, je tiens à le rappeler.
Cocorico. Merci beaucoup, Anthony Morel. Elle s'est installée dans ce studio. Elle est prête. Elle est là. Apolline, salut.
Elle est aussi piquante qu'un moustique.
Non. Je ne serais pas permis.
Salut tout le monde. Bon réveil. J'espère que vous avez dormi un petit peu. Et cette bonne nouvelle au réveil. La France qualifiée 3-0 face à l'Irak cette nuit. Un match interminable. Plus de 2 heures d'interruption à cause des orages. Est-ce que vous avez veillé? Venez nous raconter. Venez vibrer avec nous. Je vous attends au 32-16 et sur le WhatsApp 06-12-424-424. Allez, à tout de suite.
5-7. Le Morning RMC.
Et à tout moment en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes.